Bonsoir. Processus électoral. L'Union européenne s'emploie à déployer 42 premiers observateurs dans 17 provinces sur le 26 que compte la RDC dans les cadres des élections du 20 décembre 2023. Cette annonce a été faite par la chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Selon la chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne est là sur invitation des autorités congolaises, autorités qu'elle incite à décaisser au plus vite le fonds dont a besoin la CENI pour aller au bout de ce processus. Plusieurs autres missions internationales seront aussi présentes pour ce scrutin. C'est notamment l'Union africaine qui doit déployer une équipe, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et le centre Carter qui est aussi en cours de déploiement à Kinshasa. Au niveau national, plusieurs organisations de la société civile se sont regroupées en plusieurs plateformes pour l'observation des élections. Mais la plus importante est celle de la mission commune des églises catholiques et protestantes, la SENCO et l'ECC, qui annonce pouvoir déployer 60 000 observateurs pour ce vote. La CENI annonce de son côté que les accréditations des observateurs nationaux et internationaux pour les scrutins du 20 décembre 2023 en RDC se déroule du 25 octobre au 5 décembre 2023. Que proposez-vous pour une bonne organisation de l'observation électorale? Nous en parlons ce soir avec Joseph Senda, qui est directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Joseph Senda, bonsoir.
Bonsoir madame Kelly.
Luc Loutala, coordonnateur national de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, Simoncel en sigle. Luc Loutala, bonsoir.
Bonsoir, madame Kelly.
Et Cyril Ebotoko, secrétaire exécutif de la Commission épiscopale Justice et Paix de la SENCO. Il est coordonnateur national de la mission d'observation électorale, SENCO-SCC. Cyril Ebotoko, bonsoir. Je crois qu'on a un souci avec sa ligne téléphonique à Kisangani dans la province de la Tchopo. Vous nous suivez sur la 98.4. Et si vous êtes en dehors du pays, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous pouvez aussi nous suivre en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Processus électoral en RDC, l'accréditation des témoins observateurs nationaux et internationaux pour les élections générales du 20 décembre en cours jusqu'au 5 décembre 2023. Pour des élections crédibles, transparentes et apaisées, plusieurs organisations internationales se mobilisent à déployer leurs observateurs en RDC. Quels sont ces organismes internationaux qui manifestent déjà un intérêt à accompagner ce processus électoral? Grâce à Mzati nous en dit plus.
Parmi ces organisations internationales figure la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Au mois d'octobre, elle a déployé une mission d'évaluation préélectorale qui, après consultation de toutes les parties prenantes, s'est dit satisfaite du niveau des préparations du processus électoral en RDC. Elle a ajouté qu'elle est prête à revenir pour l'observation des élections au mois de décembre. La même mission d'évaluation préélectorale est menée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, CEAC. Cette organisation régionale confirme le déploiement de ses observateurs en décembre et s'est dit également rassurée de l'avancement du processus électoral. Le Centre Carter, une autre organisation d'observation électorale, affirme elle aussi que tous les moyens logistiques seront mis en place pour déployer ses observateurs à travers le pays. Par ailleurs, du côté de la CENI, on apprend que plusieurs autres organisations internationales ont déjà manifesté l'intérêt de venir observer les élections au Congo. Quelques-unes ont même déjà reçu l'invitation du gouvernement. C'est notamment l'Union africaine, l'Union européenne, le Forum des commissions électorales de la SADC, SF-SADC, la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGEL et d'autres. Cependant, jusqu'à présent, le nombre total des observateurs à déployer par chaque organisation n'est pas encore connu.
Merci, grâce à Mzati pour tous ces détails. Joseph Senda, directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Les accréditations des observateurs nationaux et internationaux sont en cours et vont jusqu'au 5 décembre prochain. Combien d'observateurs ou d'organisations ou organismes ont déjà sollicité les accréditations pour les élections du 20 décembre prochain.
Merci beaucoup, madame, pour la question. J'en profite pour saluer mes deux co-débatteurs. Et effectivement, nous avons commencé à recevoir depuis un temps déjà des demandes d'accréditation. Je peux comme ça en vrac citer Carter, que nous avons accrédité. Nous avons accordé jusqu'à ce jour 24 cartes d'accréditation. Nous avons l'AFP pour ce qui est des journalistes. Nous avons le Soir. Nous avons l'Union européenne. Et nous avons en traitement l'ECC, la CINCO, l'Église méthodiste et beaucoup d'autres. Là, sur ma table, c'est plein de macarons parce qu'il faut les signer, il faut obtenir le sceau. Donc, nous sommes en plein dans les accréditations des observateurs. Nous en profitons pour rappeler que déjà, il y a la possibilité d'obtenir son accréditation en ligne parce que notre site web est déjà opérationnel à ce sujet. Donc, nous sommes en plein. J'ai devant moi une série de demandes d'accréditation. Je confirme que l'ECC et la CINCO ont sollicité et c'est assez important. Je n'ai pas les effectifs en tête, mais je vois que c'est assez important parce que c'est étalé devant moi pour la signature.
Alors, on peut faire la demande en ligne. On peut faire la demande en ligne, comme vous venez de le dire. On peut faire la demande d'accréditation en ligne. Il faut aller sur le site de la CENI. Quelle est la procédure à suivre?
Vous allez sur le site de la CENI, vous allez suivre les instructions qui sont données et vous allez soumettre votre demande d'accréditation. Vous allez attacher tous les documents dont on a besoin. Et nous, à notre niveau ici, nous allons examiner toutes les informations requises au regard des éléments que vous allez nous fournir. Et à la fin des fins, nous allons soit valider, soit invalider. Au cas où nous vous validons, nous imprimons la carte d'accréditation que vous allez retirer ici.
Et qui peut faire la demande? Est-ce qu'il y a des critères pour être observateur des élections?
Effectivement, la demande est faite soit je parle ici de ceux qui viennent comme observateurs. Je m'écarte des journalistes et des témoins.
On parle des observateurs.
L'organe, voilà, je m'en tiens aux observateurs. Si c'est un organe international, comme le cas de Carter, il faut obtenir l'invitation du gouvernement congolais. Ça, c'est la porte d'entrée. Pour les nationaux, c'est l'organisme qui sollicite auprès de la CENI son désir ou qui soumet à la CENI son désir de nous accompagner dans l'accréditation. Une fois que nous avons reçu la demande, nous remettons à la personne un formulaire que nous appelons l'AC1 qui reprend les conditions à remplir. Si c'est un organisme interne, il faut bien que l'organisme jouisse d'une personnalité juridique. Ça, c'est très important, c'est la porte d'entrée. Et le formulaire est signé soit par le mandataire, soit par le responsable de l'organisme. À côté de ça, nous nous remettons un autre formulaire dont chaque ligne est une demande précise d'accréditation. Et pour toutes les demandes d'accréditation, il faut que la personne nous prouve qu'elle est de nationalité congolaise au moyen de sa carte d'électeur. Il faut que la personne nous dépose deux photos passeport récentes. Quand bien même cela n'est pas le cas, nous avons compris que pour certains, les photos sont venues de province, elles ne sont pas de bonne qualité. Je crois que nous allons peut-être fermer les yeux, mais nous tenons à ce que les photos soient de bonne qualité. Tandis que pour ce qui est des internationaux, comme je le disais tout à l'heure, en plus de l'invitation du gouvernement qui est incontournable, il faudra que la personne dispose d'un passeport en cours de validité et d'un visa également. On nous soumet ces éléments-là, bien sûr, sans oublier les photos passeports récentes. Là, il n'y a pas de problème, nous avons ça devant nous. Une fois que ces conditions sont établies, sont réunies, la CENI accorde l'accréditation à la personne qui a sollicité via l'organe ou l'organisme qui nous a sollicité. Donc voilà en gros comment se présentent les procédures d'obtention d'accréditation.
Et ça va jusqu'au 5 décembre, c'est la date limite.
Jusqu'au 5 décembre, oui, c'est la date limite d'introduction parce que nous sommes tenus d'accorder l'accréditation à ceux qui sont qui remplissent les conditions d'aller 7 jours après la demande d'accréditation. Donc si nous allons au-delà, eh bien nous nous approchons de la date, c'est comme ça que nous avons fixé cette date-là pour que nous soyons en mesure de traiter assez rapidement que la personne ou les demandeurs soient en mesure de nous suivre pendant le processus, soit pendant les élections ou le jour du scrutin.
Alors,
comme vous le savez, il y a ceux qui viennent comme observateurs de court terme et ceux qui viennent comme observateurs de long terme.
Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous suivent qui veulent savoir, Monsieur Joseph Senda, si c'est la CENI ou le gouvernement qui va garantir le déploiement de tous ces observateurs à travers la République et si c'est même la CENI qui va garantir la sécurité de toutes ces personnes qui vont venir pour observer les élections le 20 décembre 2023.
C'est une question extrêmement importante. La première chose qu'il faut savoir, qu'il s'agisse des observateurs, des journalistes ou des témoins, personne n'est à charge de la CENI. La CENI ne prend en charge ni les observateurs, ni les journalistes, ni les témoins. Et comme tout le monde, et ça c'est par rapport à la deuxième préoccupation, nous sommes tous disons, dans le même sac, en ce sens que c'est le gouvernement qui nous assure la sécurité. C'est le gouvernement qui doit assurer la sécurité de tout le monde, y compris la CENI. Les observateurs nationaux et internationaux, ils bénéficient de la protection que le gouvernement nous accorde dans l'organisation du processus, des élections du processus électoral. Donc il n'y a pas une charge quelconque, si je peux me permettre, à charge de la CENI, sinon vous accordez le macaron. C'est tout ce que la CENI fait. Elle vous accorde le macaron qui vous permet d'accéder au site de vote, au centre de vote, au bureau de vote. Et ne prend pas en charge en ce qui concerne les autres besoins, non.
Il y a Prince qui nous écrit de Kinshasa qui veut savoir si ces observateurs auront l'accès facile aux documents de travail.
Non, mais il faut bien comprendre les choses, il ne faut pas qu'il y ait de l'amalgame. Hein. Les observateurs qui viennent, ils s'en tiennent à observer si les procédures sont respectées. Les observateurs viennent, ils s'intéressent au respect du cadre légal. Il ne faut pas qu'ils aillent au-delà de leurs droits. Ils ont le droit d'observer la régularité du processus électoral, la régularité de l'opération de vote, conformément au cadre légal congolais, conformément aux procédures. Et ça se limite là. Ils ne s'ingèrent en rien dans ce qui se passe dans un bureau de vote. Ils ne s'ingèrent en rien. Ils observent est-ce que toutes les obligations légales ont été respectées. Est-ce que les procédures telles que définies par les CENI sont respectées. C'est ce limite-là.
Luc Loutte, la coordonnateur national de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, Simoncel en sigle, est-ce que la Simoncel a sollicité, a fait la demande d'accréditation pour l'observation des élections le 20 décembre, pour les élections du 20 décembre 2023?
Bonsoir Madame Kelly, je salue le directeur Senda. Senda ainsi que Cyril et Botoko et tous les auditeurs de Radio Okapi. La Simoncel existe dans toutes les provinces et la Simoncel fait partie des missions citoyennes d'observation électorale qui ont émergé depuis le dernier cycle électoral. Parce que vous savez, il faut le rappeler, que contrairement à ce qu'on observe avec ce cycle ici, beaucoup de missions d'observation internationale qui arrivent, le dernier cycle, a connu l'exclusivité de l'observation citoyenne. Donc on a vu des élections qui étaient totalement financées par le gouvernement et le gouvernement n'avait pas invité les missions d'observation internationale, ce qui a fait que les missions citoyennes ont pu beaucoup se professionnaliser, se développer en termes d'expertise. Et donc la Simoncel observe non seulement le cycle électoral dans sa totalité, ça veut dire les scrutins, mais aussi à une observation de long terme qui est totalement citoyenne, qui passe par le processus des réformes, ce qui fait qu'on a suivi tout le processus des réformes électorales, que ce soit la loi organique de la CENI, que ce soit la loi électorale, que ce soit la mise en place de l'équipe de la CENI. Et donc, on est déployé et il se fait que on a obtenu des accréditations à différents niveaux. On a eu d'abord des accréditations de long terme pour la RFE, donc la révision du fichier électoral, qui ont expiré. Maintenant, étant donné le volume d'observateurs que nous devons déployer, la CIMONCEL a déjà envoyé des mandats dans les provinces, et je pense que dans 20 provinces déjà, on a déjà déposé auprès des 7. Les 7, ce sont les secrétaires provinciaux hein, de la CENI, les secrétaires exécutifs provinciaux de la CENI. Et donc, on a déjà déposé dans plus ou moins 20 provinces les mandats pour non seulement les observateurs de court terme, mais aussi les observateurs de long terme de province. Et je pense que ici on est en train de finaliser le dossier pour renouveler, parce qu'on a des accréditations qui ont expiré en fait. Et nous avons un gap, initialement le gap qui nageait entre 12 000 et 20 000 observateurs. Nous venons, il y a une semaine, de faire une mutualisation des forces avec la nouvelle société civile qui va amener entre 8 et 16 000 observateurs de court terme, ce qui va nous porter dans un minimum qui nage entre 24 000 et 40 000 observateurs de court terme. À cela, il faut ajouter 540 superviseurs territoriaux et autour de 520 observateurs de long terme. Donc on comprend que c'est une étape assez délicate où il faut jouer à la simplicité. Donc on a préféré non pas envoyer tous les documents auprès du directeur Senda au niveau national, hein, où il va ployer sous le poids de dossier. Et donc on a joué vraiment à la décentralisation, la responsabilité, on envoyait des mandats dans toutes les provinces pour aller assez rapidement et simplifier cette démarche-là.
Alors, il y a beaucoup de questions hein, par rapport à cette observation ou à ces missions d'observation des élections. Il y a par exemple M. Bienzambi Kabwe Nebidileje, voilà, qui demande c'est quoi le bien fondé d'avoir des missions d'observation des élections et en quoi est-ce qu'elles sont bénéficiaires pour la RDC. Aujourd'hui, le Congo est à son quatrième cycle. À quoi ont servi les rapports des observateurs lors des contentieux électoraux?
Alors, ça c'est une question assez capitale et intéressante en elle-même, parce que effectivement, quand on regarde chez nous, avant le dernier cycle, les missions locales, hein, c'était un peu des enfants des cœurs qui travaillaient souvent sous le label des missions internationales, et on n'avait pas des missions locales hein, capables d'impact ou de produire des rapports de niveau assez professionnel, capables de contribuer à la crédibilité du processus électoral. Mais on a observé lors du dernier cycle qu'effectivement les missions citoyennes sont véritablement montées en puissance. Et on a assisté que c'est nos missions citoyennes qui ont fait des propositions à la CENI. Nous avons piloté avec les missions citoyennes tout ce qu'on a appelé le processus des JONAREF, donc des journées pour les réformes électorales. Et je pense que on a senti effectivement que les missions locales avaient atteint un niveau de contribution à l'amélioration du cycle électoral. Bon, de manière assez brève, les missions citoyennes jouent plusieurs rôles. Le premier rôle, il est dissuasif. Ça veut dire pour le citoyen, comme pour l'organe de gestion des élections, la CENI, lorsqu'il y a un agent, si vous voulez, un observateur qui est là, parce qu'il doit être affiché, l'observateur a sa tenue, on voit de loin que c'est un observateur, il porte la tenue, il porte le macaron, notamment que la CENI délivre, qui permet qu'on identifie que c'est un observateur. Pour les citoyens, c'est une garantie d'avoir quelqu'un qui suit effectivement que leurs droits électoraux sont respectés. Et pour la CENI, c'est aussi quand même ce poids de se dire, attends, nous sommes observés, nous sommes regardés par des gens qui ont mission de nous suivre, et donc ça a une mission dissuasive qui permet que même si des gens, on ne dit pas nécessairement que la CENI a mission de faire mal les choses, mais il y a toujours des gens au sein de la CENI, hein, qui sont tentés de le faire, et c'est pour ça que l'émission existe. Nous jouons plus ou moins le rôle de l'arbitre qui est là pour dire si les choses marchent bien ou ne marchent pas bien, et nous garantissons que les droits des électeurs sont respectés ou ne sont pas respectés. Donc on a le rôle dissuasif, on a le rôle de contribution à l'amélioration, ce qui fait que nous sommes en mesure d'interagir avec la CENI. Et ça veut dire non seulement par les communiqués, les publications que nous faisons ou les déclarations, mais en même temps, lorsqu'il y a des situations suffisamment graves, nous sommes capables d'attirer le regard de la CENI, d'appeler à la CENI, ce qui fait que nous devons collaborer. La CENI n'est pas notre adversaire, nous ne sommes pas les opposants de la CENI comme beaucoup le pensent. Nous ne sommes pas de l'opposition, nous ne sommes pas de la majorité, nous n'avons pas des couleurs, mais nous sommes là pour tirer la sonnette d'alarme lorsque les choses ne marchent pas suffisamment bien.
Une autre question de Marie-France depuis Kinshasa demande si l'émission d'observation, voilà, ont le droit de divulguer les résultats avant la CENI.
Alors, il reste qu'il y a la loi, et je crois, je suis entièrement d'accord, hein, pour cette fois-ci avec le directeur Senda, que toutes les institutions sont tenues à la légalité. Et la loi électorale est assez claire là-dessus, même si les missions peuvent faire ce qu'on appelle le comptage parallèle de vote, le PVT, mais au terme de la loi, la CENI est l'institution qui est habilitée à proclamer les résultats. Maintenant, il va falloir se rendre compte que les missions qui sont sur terrain ont aussi un rapport à faire et peuvent se dire si le rapport se rapproche des résultats de la CENI ou s'écarte des résultats de la CENI, ce qui fait que les missions d'observation, les observateurs qui sont sur terrain, ont la mission non seulement d'observer, mais aussi de documenter. Non seulement de documenter, ça veut dire prendre tous les éléments objectifs de ce qui se déroule sur terrain. Non seulement ils vont prendre ces éléments, effectivement, mais ils vont les communiquer pour que ces éléments soient analysés. Analyser, ça veut dire afin de produire non seulement des recommandations, ce qu'on appelle les livrables des missions d'observation. Ça peut être à travers les communiqués, les déclarations, mais aussi à travers les rapports qui sont émis. Et la loi, cette fois-ci, a été suffisamment claire. Elle oblige les missions d'observation à transmettre ses rapports au niveau de la CENI, au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du gouvernement. Ça veut dire, la dernière loi électorale a rehaussé le niveau de considération des rapports. Et on peut même observer que maintenant l'engouement des missions d'observation internationale qui arrivent nébulue plus ou moins, si vous voulez, la dynamique d'observation citoyenne. Mais on sent que l'observation a vraiment le vent en poupe, à tel point que aujourd'hui, le directeur Senda aurait pu vous le dire, vous auriez pu lui poser la question, on assiste à une véritable émergence foisonnante de missions d'observation citoyenne. On en compte une dizaine, une vingtaine, et on a là plus ou moins des aperçus ou des suspicions sur le fait que les politiques sentant que les missions d'observation ont quand même un poids sur la crédibilité des élections. On suppose qu'il y a des tendances à soutenir ou tel parti ou tel candidat. Merci. Et puis après, il y a effectivement cette tendance que les financements internationaux ont élagué, sont passés outre beaucoup de missions citoyennes pour se focaliser sur les missions internationales. Ce qui veut dire effectivement que ce processus est en train de démontrer que l'observation citoyenne pèse sur la crédibilité des processus électoraux.
Merci, Luc Loutala, Cyril Ibotoko, secrétaire exécutif de la Commission épiscopale Justice et Paix de la CENCO. Vous êtes aussi coordonnateur national de la mission d'observation électorale CENCO-SCC. Cette mission d'observation prévoit de déployer 60 000 observateurs à travers la RDC. Est-ce que le déploiement a déjà commencé? Cyril Ibotoko, est-ce que vous m'entendez? Je crois que nous l'avons perdu. On va essayer de le rappeler encore une fois. Alors, merci à ces internautes hein, qui sont très très nombreux à nous écrire sur la page Facebook de Radio Okapi depuis la ville de Likasi dans la province du Haut-Katanga. Merci à Marcel Kiatondo, Pereira Numbi. Bonsoir Radio Okapi. Est-ce que les membres de la CENI ont les droits de voter? Joseph Sendava va répondre à cette question tout à l'heure. Séraphin Dinas de Congo-Brazzaville qui nous suit depuis Bangui en République centrafricaine. Merci beaucoup. David Wedi depuis Kinshasa pense que le déploiement est quand même salutaire pour éviter les contestations ou la contestation des résultats et l'exigence de la vérité des urnes. Massoudi Bolia Peter qui nous suit depuis Kalemi. Merci à Chikapa Poindibou et à l'écoute. Cette émission. Merci aussi à Dr Chipela Joseph depuis Lubumbashi. On va offrir le standard pour prendre ces auditeurs qui appellent aussi sur le téléphone. On va se rendre à Kinshasa. On va se rendre à Kinshasa. On est à Kinshasa. On va prendre cet auditeur de Kinshasa qui appelle. Ça sera pour vous, Joseph Senda.
Junior Bompongo depuis la ville province de Kinshasa. Pour une bonne organisation de l'observation électorale en RDC, il est essentiel de mettre en place des mécanismes de transparence et de collaboration entre différentes parties prenantes, notamment les observateurs nationaux et internationaux, les autorités électorales et les acteurs politiques. De plus, il est primordial de garantir l'indépendance et l'impartialité des observateurs, ainsi que leur accès libre et sécurisé aux bureaux et centres de vote. C'est ainsi que les choix des électeurs pourraient être respectés, d'autant plus que les observateurs électoraux ont pour rôle, entre autres, de surveiller, d'évaluer et de rapporter le déroulement du processus électoral afin de garantir sa transparence, sa crédibilité et son intégrité.
Joseph Senda, mettre en place des mécanismes de transparence et de collaboration entre les parties prenantes, selon cet auditeur de Kinshasa, Junior Bompongo.
Bon, d'abord, merci pour la question. D'abord, il faut rappeler que c'est la loi qui nous oblige de nous faire accompagner par des missions d'observation. Il n'y a pas que les observateurs. Il y a les témoins des compétiteurs, il y a les journalistes. Nous pensons que ces éléments-là aident à renforcer non pas seulement la crédibilité du processus, mais aussi la transparence, en ce sens que les observateurs sont totalement indépendants de la CENI. Ils ne peuvent même pas faire le jeu de la CENI. Ils sont un œil extérieur dont nous, CENI, nous avons vraiment, vraiment besoin. Nous avons besoin d'un œil extérieur qui nous permettrait de détecter nos failles. Parce qu'à la fin des fins, c'est une œuvre humaine qui peut avoir ses limites. Mais quand il y a un œil extérieur, en l'occurrence les observateurs, qui ne sont pas en compétition à la différence des témoins, ils sont censés nous fournir des éléments tout à fait neutres. Quand même, la neutralité n'est pas aussi évidente qu'on le croirait. Donc, il y a un cadre légal qui nous recommande la prise en compte des observateurs. Qu'il s'agisse de la loi électorale, qu'il s'agisse de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, il y est prévu l'accompagnement d'un processus électoral par une observation électorale. Donc, pour nous, c'est une très bonne affaire parce que nous n'avons rien à cacher. Et comme je le disais, l'œuvre humaine étant perfectible, nous avons besoin d'un extérieur qui nous dirait, voilà, à tel ou tel point, il fallait faire ceci ou cela, et ensemble, nous examinons la question. Et d'ailleurs, souvent, nous avons des cas de concertation de la société civile. Nous y recevons les potentiels observateurs. Nous échangeons avec eux autour du cadre légal, autour des procédures de l'activité en cours. Ça peut être la RFE, ça peut être le BRTC, l'inscription des candidats, ça peut être les élections, ça peut être la compilation des résultats au niveau de CELCR. Nous échangeons avec eux pour que nous sachons comment nous comporter. Nous les appelons à signer le code de bonne conduite, parce qu'en fait, ils sont tenus d'observer une certaine ligne de conduite. Et donc, nous avons vraiment besoin d'une observation électorale. il n'y a vraiment pas de raison qu'il y ait un conflit quelconque, sauf si ils sortent de leurs droits, parce qu'ils ont des droits et ils ont des devoirs.
Mm-hmm.
Donc, s'ils sortent de ce cadre-là, à ce moment-là, ça peut un peu énerver la CENI, qui peut les rappeler à l'ordre. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. J'insiste beaucoup sur la nécessité de nous faire accompagner par des missions d'observation. Pour nous, c'est vraiment très important.
Alors, il y a une question qui a été posée dans l'émission. Est-ce que ces missions peuvent publier les résultats avant ou divulguer les résultats avant la CENI?
Je crois que c'est un des éléments qui est repris dans le code de bonne conduite. Ils sont tenus d'observer une certaine ligne de conduite. Ils n'ont pas le pouvoir de publier les résultats. Ils ne sont pas là pour compiler, non. Comme je le disais, ils sont là pour voir si les processus ou les procédures sont régulières. Ils ne sont pas là pour comptabiliser les voix des candidats. Ils ne sont pas là pour ça. Est-ce que on a scellé les plis? Ils sont là pour voir si nous avons scellé les plis. Est-ce que nous avons présenté l'urne vide au public? Ils sont là pour voir. Est-ce que nous avons ouvert à temps? Ils sont là pour voir. Est-ce que nous avons empêché un électeur de voter? Ils sont là pour voir. Est-ce que nous n'avons pas tenu telle ou telle chose? Ils sont là pour voir. Ça s'arrête là. Ils ne sont pas là pour comptabiliser les voix et proclamer les résultats.
Ils ne peuvent même pas assister à ça. Ils ne peuvent pas assister à ça, M. Senda.
Assister à quoi?
Lorsqu'on comptabilise le voix, les observateurs ne peuvent pas rester dans la salle.
Ils ont le droit d'assister au dépouillement. Ils peuvent assister au dépouillement. Ils ont le droit d'assister et au vote et au dépouillement. Ils ont le droit d'assister à la compilation au niveau du CELSER. Ils ont le droit. Mais lorsqu'il y a un problème qui se pose, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Ils observent.
Et ça, c'est limite là.
Je prends un exemple. Lorsque nous procédons au pointage, nous avons deux assesseurs qui sont en train de pointer. Supposons qu'à la fin, on se rend compte que pour un candidat X, tel a pointé 19, tel autre a pointé 20. Ils observent comment est-ce que nous allons résoudre ce problème, un point train. Comment est-ce que le bureau de vote va résoudre cette différence de voix entre 19 et 20? Ils n'ont pas à dire ajouter ou retrancher. Ce n'est pas leur affaire. Ils vont écrire dans leur carnet comment nous avons résolu ce problème.
Merci.
Est-ce que nous l'avons fait de manière équitable? Ça, ils vont le faire.
La réalisation me signale que Cyril Ebotoko est en ligne. Est-ce que vous m'entendez, M. Ebotoko? Monsieur Ebotoko, est-ce que vous m'entendez? Décidément, la ligne de Cyril Ebotoko pose problème. On va se rendre à Kolwezi, dans le Lualaba, pour écouter cet autre auditeur qui nous appelle.
Patrick Mbouli, Katama depuis Kolwezi, dans la province du Lualaba. L'accréditation de ces observateurs internationaux sont d'une importance capitale et va renforcer la confiance des parties prenantes à ce processus. Mais les partenaires de la RDC, notamment l'Union européenne, devaient commencer par un appui financier et logistique avant le déploiement de ces observateurs. D'autant plus que la CENI aurait besoin aujourd'hui de plus de 300 millions de dollars américains pour couvrir tout le processus électoral. Et on ne sent ni ne voit l'accompagnement de certains partenaires comme pendant les autres cycles électoraux. Je pense que ces observateurs, surtout ceux de la CENCO et de l'ECC, vont jouer un rôle pionnier pour pouvoir garantir la transparence et que le vrai élu à tous les niveaux soit véritablement proclamé pour le bien du pays. Au lieu de se partager les sièges selon les regroupements politiques, comme pensent les communs des mortels.
Luc Loutala, brève réaction.
Ben oui, je pense que, je le disais tout à l'heure, l'observation a pris du poids, a pris vraiment de la valeur, et que ce qu'il dit est vrai, mais il convient de distinguer ceci. D'une part, l'on ne peut pas fermer la porte à l'observation internationale, mais d'autre part, la consolidation de la démocratie appelle à ce que nous puissions totalement nous approprier notre démocratie. Ça veut dire le développement des missions d'observation locales est capital pour notre démocratie. Il faudrait imaginer, hein, et ça, ça s'est déjà passé, qu'un jour, on a les missions congolaises qui vont totalement se déployer pour observer à l'extérieur. Pour le moment, il y a des difficultés suffisamment majeures, et nous pensons que, et ça, ça peut être l'un des points négatifs de ce déploiement très, très nombreux des missions d'observation internationales. D'abord, il y a un déséquilibre de moyens entre les missions citoyennes et les missions internationales. Hein. Ces missions internationales sont totalement budgétivores et en même temps, elles viennent peser sur les missions locales. Hein. Elles puisent l'information sur les missions locales. Je prendrai le cas, hein, tout à l'heure, vous n'avez aucune mission internationale qui va déployer plus de 200 observateurs sur l'ensemble du pays. Mais vous avez la totalité des missions qui sont là. La CIMOCEL, par exemple, toute l'année, hein, sans interruption, déploie une équipe cadre avec 275 observateurs de long terme sur l'ensemble du pays, avec maintenant une projection de déployer, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de au moins 20 000 observateurs. Et si l'on voit la mutualisation avec la nouvelle société civile, c'est 40 000. Et une ambition de couvrir plus ou moins la CENI à 24 000 sites de vote. Et nous, on a l'ambition de couvrir autour de 80% de ces sites de vote. Bon, donc on voit que si nous voulons aller dans une démarche de démocratie consolidée, il est très important, et je crois que la CENI essaie de jouer sa partition, au moins sur ce point-là, de façon assez positive, de ouvrir la porte aux missions citoyennes, de ne pas fermer la porte, mais en même temps, il y a le fait que les missions citoyennes sont des missions qui peinent à mobiliser les moyens, ce qui fait que nous avons lancé la semaine passée le financement citoyen de notre mission d'observation citoyenne, et donc on est en train d'aller sur ce point-là. Il est important que nous ouvrions les yeux sur le fait que la démocratie française, hein, la démocratie, les démocraties américaines, les démocraties occidentales, les démocraties consolidées, en fait, comptent d'abord sur l'observation locale. Et on n'imagine pas que les Américains vont observer en France ou les Français vont observer aux États-Unis, mais bon, n'empêche, il y a encore ce défi que nous devons absolument relever. Mais en même temps, il faut voir que l'observation internationale, hein, est toujours plus ou moins prisée sur une ligne politique. Et donc, il y a que c'est souvent aligné sur des lignes politiques, avec ces conclusions qui sont plus ou moins monologues, plus ou moins on se pose la question, et c'est ça un tout petit peu la faiblesse de l'observation classique. On se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Ils ont dit, rien n'impacte sur le processus, mais les gens vivent des problèmes, alors que l'observation citoyenne est dynamique. L'observation citoyenne est dynamique, elle travaille avec la CENI aux différentes opérations, elle interagit avec la CENI, parfois elle dérange la CENI, et c'est ça qui est important. Non seulement elle va déranger la CENI, mais elle va travailler aussi à différents niveaux, au niveau des institutions telles que l'Assemblée nationale, le Sénat. Quand le budget de la CENI n'est pas décaissé au moment opportun, on est là pour interpeller le gouvernement et lui dire la CENI a besoin de moyens. Et en même temps, tout le boulot, en réalité, de crédibilisation des différentes opérations, parce qu'il ne faut pas voir les élections ou le processus électoral seulement le jour du vote. Le jour du vote, c'est plus ou moins bouclé, quoi. Le jour du vote, c'est plus ou moins bouclé. Et donc, il y a tout ce lourd travail d'accompagnement de la CENI dans son travail qui est totalement lourd. C'est un travail de neutralité, d'objectivité, avec beaucoup d'influence à la fois politique et des parties prenantes, avec des gens qui ont des ambitions, qui se contredisent. Et donc, pour garder la tête froide à ce moment-là, parfois, il faut que les missions d'observation, surtout citoyennes, et là, il faut saluer non seulement le travail que nous faisons, mais que font aussi les missions sœurs, comme les CC5O et les autres aussi. Mais ça, c'est vraiment ça le travail que parfois les gens ne voient pas, mais nous, les missions d'observation citoyenne, nous sommes le regard des citoyens. Nous nous assurons que le droit de vote des citoyens est respecté, que la CENI respecte la loi, que les parties prenantes jouent leur partition, et c'est un travail totalement énorme qui demande un grand engagement.
Merci. Alors, Joseph Senda, il y a Jean Déjà qui dit, déjà c'est pas le sujet du jour, mais comme vous avez quelqu'un de la CENI dans l'émission, j'aimerais savoir si les résultats des élections seront affichés par bureau de vote.
Mais la loi nous l'oblige. c'est la loi qui nous oblige à ce que nous puissions afficher les résultats par bureau de vote. Ça, c'est une obligation. Nous devons le faire. Et nous l'avons toujours fait depuis 2006. C'est pour cela que nous rejoignons un peu la note qui est sortie, je crois, si je ne m'abuse pas, je ne fais pas la subtilité d'estimer, qui nous rappelle que le fait que votre candidat ait perdu dans un bureau, ça ne voudra pas dire qu'il a perdu le scrutin, quoi, pour éviter que nous tombions dans ce que certains recommandent, quoi. Donc, depuis 2006, nous affichons les résultats devant le bureau de vote. Affichés. Nous disons bien, nous affichons les résultats devant le bureau de vote. Donc, il est possible que l'on prenne connaissance des résultats sortis de ce bureau de vote-là. Et comme nous venons de le dire, ça ne sert à rien de s'affoler parce que votre candidat aura perdu dans un bureau de vote et vous concluez qu'il a perdu le vote. Ça ne sert à rien non plus de jubiler, de sauter de joie parce que votre candidat aura obtenu la première place dans un bureau de vote. Vous en concluez qu'il a gagné tout le procès, il a gagné les élections à travers le pays. Donc je crois que c'est une maladresse qu'il faut vraiment éviter. C'est un élément qu'il faudra vraiment porter à la connaissance des électeurs, qu'on devra être prudent lorsqu'on affiche les résultats devant un bureau de vote.
Moukoko, depuis Bukavu, demande si les observateurs peuvent aussi assister à la compilation. Je crois que M. Senda a répondu déjà à cette question, oui. Et puis voilà, Marcel Katondo, depuis la ville de Likasi, dans la province du Haut-Katanga, merci de suivre Radio Kapi. Merci aussi à Théodore Abamungu, depuis Kolwezi. Voilà, les mêmes questions qui reviennent presque sur l'affichage des résultats. Monsieur Senda vient de répondre à la question. On va prendre ce dernier auditeur qui appelle depuis Luebo, dans le Kasaï.
C'est moi, Saba, depuis le secteur de Luebo, dans la province du Kasaï. Je souhaiterais pour que le processus soit transparent, c'est que les organisations internationales et sous-régionales puissent déployer leurs observateurs dans toutes les 6 provinces de la République, car les confessions religieuses congolaises ne sont là que pour faire ce que j'appellerais de la plaisanterie de la farce politique. Sachant que en République démocratique du Congo, pour moi, il n'existe pas une vraie société civile, car nous constatons que cette société civile s'est transformée en groupe de pression, et cette société civile ne joue pas pleinement son rôle. Et là, les organisations internationales et sous-régionales doivent vraiment s'impliquer pour que les observateurs puissent intervenir, voire même dans tous les territoires de la République. Tant qu'en ces territoires, il faut que les observateurs électoraux soient là.
Luc Loutala, je pense que cet auditeur s'adresse à vous. Hein. Comment vous lui répondez très brièvement?
Ouais, mais je pense qu'il a totalement raison, hein, mais en même temps, je suis d'accord avec lui que les organisations de la société civile doivent être des groupes de pression. C'est le rôle, c'est un des rôles classiques pour lequel les organisations de la société civile existent. Elles sont un groupe de pression qui transporte les besoins de la population et qui les communique auprès des politiques. Et les politiques, il faut savoir que les politiques ne sont pas des enfants de cœur. Il faut qu'une organisation civile, de la société civile, ait la capacité d'être un groupe de pression, non seulement pour interagir avec le gouvernement, mais pour amener le gouvernement à se remettre plus ou moins en question, et si seulement le gouvernement, mais aussi les institutions, dans le cas d'espèce, la CENI. Et donc, si les missions citoyennes que nous sommes n'étaient que des enfants des cœurs de la CENI, quand la CENI parle, nous disons oui, tout est OK, je pense que il n'y aurait aucune raison pour que nous puissions exister. Nous existons parce qu'effectivement, nous sommes et nous devons être un groupe de pression. Il y a quand même un élément sur lequel je voulais revenir, l'élément de comptage des voix. Et la loi prévoit, et je pense que le président Denis Kadima est revenu là-dessus, la loi prévoit qu'au-delà de l'observation et dans le processus d'observation, et ça se fait en accord avec la CENI, une mission d'observation peut monter un système de comptage parallèle de vote qu'on appelle le PVT. Alors, je ne sais pas si en ce moment on aura une mission qui va le faire, mais ça existe. Mais en même temps, nous les observateurs, lorsque le dépouillement se fait, nous sommes là, nous assistons à tous les scénarios, nous n'intervenons pas, ça c'est évident. mais nous sommes les témoins de tout ce qui se passe. Et donc, nos observateurs ont le devoir de documenter. Ils documentent à partir du moment où ils documentent. Selon le professionnalisme d'une mission, il est possible d'analyser les éléments tels qu'ils sont remontés des dépouillements et de se faire une idée des tendances. Évidemment, on est d'accord qu'on ne va pas aller sur 1% de bureaux pour se dire qu'il y a une telle tendance. Il y a un seuil minimal qui est fixé professionnellement pour se dire qu'on a une tendance. Quoi qu'il en soit, on est totalement d'accord qu'on ne remplace pas la CENI, mais après, sur base des publications de la CENI, sur base de l'affichage des résultats, une mission d'observation est quand même capable de se dire, elle fait, si vous voulez, une observation à ex poste pour regarder si il y a une conformité entre les résultats finalement tels qu'ils seront affichés sur le site de la CENI avec les résultats tels qu'ils se sont passés.
Merci. Rapidement, il faut conclure, Luc Loutala.
Oui, nous avons une tâche assez lourde qui est celle d'être véritablement l'arbitre du jeu, le garant de la crédibilité, le garant du bon déroulement des processus électoraux et du déroulement de la mise en œuvre des opérations. Et donc, moi je pense, et c'est le moment d'encourager les citoyens, ceux qui sont intervenus comme ceux qui suivent la radio Capi, lorsque vous voyez un observateur, il faut le rapprocher. Vous avez une information quelconque qui peut être prouvée, documentée. N'hésitez pas à approcher les observateurs que vous allez voir sur terrain pour leur communiquer des éléments que vous pouvez observer de quelque nature que ce soit. Et c'est notre rôle de documenter. Documenter non pas pour aller en opposition, mais documenter pour travailler avec les institutions d'appui à la démocratie, notamment ici, la CENI, afin d'améliorer le processus électoral. Parfois, pour ce processus, ça ne peut pas produire des effets tout de suite, mais après, dans le cadre du lobbying et d'amélioration des processus à venir, cela contribue énormément.
Merci. Luc Loutala, coordonnateur national de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections SIMOCEL en sigle. Cyril Evotoko, est-ce que vous êtes en ligne? Cyril Evotoko, est-ce que vous êtes en ligne? Malheureusement, on n'a pas pu l'avoir dans cette émission. Sa ligne téléphonique a posé problème. Vous l'avez constaté, comme nous, chers auditeurs internautes de Radio Okapi. Prochainement, on espère l'avoir dans cette émission. Joseph Sinda, directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante, Sydney, en sigle, votre conclusion.
Merci beaucoup. Je crois que nous avons commencé par rappeler que c'est la loi qui oblige qu'un processus électoral soit accompagné par les observateurs. Donc, pour nous, c'est une très bonne chose, en ce sens que c'est un œil extérieur, je l'ai dit, qui nous permet de voir nos limites. Donc, c'est extrêmement important pour nous. La présence d'une mission d'observation renforce la crédibilité du processus. Et nous avons insisté que tout devra se faire dans le respect de la loi, c'est-à-dire que les observateurs ont des devoirs, et ils ont des droits. La CENI tient à ce que les droits des observateurs soient garantis. Elle souhaite aussi que les observateurs sachent qu'elles ne peuvent pas aller au-delà des limites leur reconnues, notamment par la loi. Et là, j'insiste une fois encore, la commission électorale est le seul pouvoir organisateur et la commission électorale est la seule institution autorisée à proclamer les résultats provisoires en attendant que les définitifs viennent des juridictions concernées. Prétendre faire autre chose que ça pourrait nous conduire à une confusion qui n'a pas de raison d'être, quoi. Donc je souhaite vraiment que les missions d'observation que nous allons accréditer s'en tiennent à leurs droits et à leurs devoirs, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui leur est permis, sinon ça serait créer de la confusion dans la tête des gens. Je suivais un auditeur qui pensait qu'il fallait par tous les moyens qu'on soit accompagné par les missions internationales. D'abord, je rappelle qu'elles sont là sur invitation du gouvernement. Si le gouvernement ne les invite pas, elles ne viennent pas. Et la deuxième chose, je voudrais demander aux compatriotes de ne pas être naïfs et de prétendre que ces missions sont neutres. J'en sais beaucoup de choses et je crois que les compatriotes SIMOCEL y a un peu fait allusion. C'est naïf de croire que ces missions sont neutres. Donc je crois que les intérêts ne sont pas les mêmes entre les missions d'observation des nationaux et les missions d'observation des internationaux. Je crois qu'il ne faut pas être naïf. Donc voilà ce que je peux dire. Nous insistons beaucoup, nous tenons à ce que les missions d'observation nous accompagnent. Ça nous met à l'aise parce qu'en fait, ne sont pas aussi parfaits qu'on le croirait. Voilà un peu ce que je peux.
Merci Joseph Senda. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Dona Madimba, Jean-Noël Mokondo, Clément Chimanga, Jonathan Fonani, Hervé Boka, qui m'ont accompagné dans la préparation de ce magazine au micro, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.